J'ai du mal à dire le mot artiste, hein, donc voilà, j'ai une veine artistique.
J'avais pas osé te poser la question en fait tout à l'heure si tu te définissais comme artiste.
Ouais, est-ce que j'ai tiqué quand tu l'as dit? Tu as dit que tu es reconnu comme artiste?
Ouais.
Bah, très bien que je sois reconnu comme artiste. Ouais.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Si vous êtes déjà venu à Rouen, vous avez peut-être marché sur les œuvres de mon invité du jour. Dans le civil, il s'appelle Nicolas, mais pour les Rouennais, c'est Inkoy. Un peu partout dans la ville, on retrouve des carreaux de ciment qu'il a peints directement sur les trottoirs. Une manière de faire sortir le patrimoine des halls d'immeubles, mais aussi de mettre de la couleur dans la ville. Des réalisations qui ont tellement plu qu'il va désormais poser ses bombes dans plein de villes en France. Par une très belle fin de journée, j'ai rejoint Inkoy dans son atelier rouennais. Devant la porte, le trottoir est couvert d'essais de ses pochoirs, évidemment. Plus étonnant, la silhouette d'un rat mort que l'artiste a eu le temps d'entourer de peinture avant qu'il ne soit dégagé par la municipalité. Une fois la porte franchie, ne vous laissez surtout pas tromper par le hamac qui pend du plafond, les sandales et son look décontracté. Inkoy a beaucoup, beaucoup de boulot. Mais il a tout de même gentiment pris le temps de me répondre et de me faire visiter son atelier. Comment t'as eu l'idée un jour de te dire je vais peindre sur les trottoirs de Rouen?
Alors, je sais pas comment elle est venue exactement. En tout cas, il s'avère simplement que j'habitais au Place Saint-Marc il y a encore, je sais pas, 2 ans. Ouais, même pas, ouais, moins que ça. Et dans mon hall d'immeuble, il y avait des carreaux de ciment qui étaient assez tristounes d'ailleurs, mais néanmoins, c'est des carreaux de ciment très géométriques sur les tons blancs et gris. Et alors en fait, j'en ai pas un souvenir très très précis. C'est ma conjointe qui m'a dit, hein, qui raconte aujourd'hui que j'arrêtais pas de lui dire, ah, il faut que je les fasse, faut que je les fasse, faut que je les reproduise. Et puis voilà. Donc un jour, elle m'a dit, bah, on va le laisser faire. Et donc je suis descendu, j'ai découpé des pochoirs à cutter, j'avais acheté des bombes qui ressemblaient à un blanc, 2 teintes ou 3 teintes de gris et un noir. Et puis je les ai sortis. Voilà. Ouais, c'est pas comme une lubie, mais en tout cas l'idée m'est venue spontanément. J'avais envie de le faire comme une expérience. Moi, je suis pas du tout graffeur, j'avais jamais utilisé de bombe. Voilà. Donc en fait, l'idée, je pense, qui m'est venue moi, c'était simplement qu'il y avait un truc graphique dans le hall et que ça serait marrant de le foutre dehors, d'abord parce qu'il est pas à sa place, donc les choses un peu décalées. Et puis parce que le trottoir il est uni, il est moche, il est crade, et que d'un coup on mettrait un truc un peu plus précieux. Et voilà. Et par contre, alors, une fois que ça s'est fait et que c'est séduit, ça m'a moi-même séduit, du coup, je me suis retrouvé à en faire d'autres et des plus complexes, quoi. Mais ouais, j'avais juste envie de sortir du cadre. Donc, le truc est sorti du cadre.
Je précise juste pour les auditeurs qui vont peut-être l'entendre en fond, le voisin est très en forme. On l'entend chanter.
Ouais,
si vous l'entendez en fond, c'est parce qu'on enregistre un jour où il fait très beau, donc les portes sont ouvertes pour pas qu'on crève de chaud. Et en effet, il y a un monsieur qui chante très bien. Ah oui, d'accord, c'est le monsieur qui est de l'autre côté du trottoir.
Ouais, ouais. Alors lui, je sais pas, mais l'autre s'appelle Jean-Luc. Ils sont là tous les jours, ouais.
D'accord. donc t'étais pas du tout graffeur. En fait, moi, je m'imaginais que c'était que t'avais déjà un gros passif là-dessus, et pas du tout.
Eh non, pas du tout. Non. Moi, je suis complètement autre chose. Il s'avère que ce truc-là m'a séduit, donc je l'ai fait. Et je l'ai fait, il m'a encore plus séduit, donc j'en ai fait d'autres. Et après, il a séduit d'autres gens, et moi, il continue à me séduire, donc j'en ai fait beaucoup d'autres. Ouais. Mais j'ai pas du tout la culture graffeur. À part quelques graffeurs ici, de façon très très locale, je connais leur nom parce que j'entends parler, mais j'ai zéro culture.
D'accord.
Tu as toute l'histoire du graffe new-yorkais, par exemple, je l'apprends au fil des jours parce que on en parle quand on fait des petites conférences, on est deux, on se renseigne et puis on essaie de savoir de quoi on parle, quoi. Mais
alors ça s'appelle du Kerbart.
Donc, ouais.
Curb, si je prends l'accent, puisque ça vient de l'anglais trottoir.
Exactement.
C'est quelque chose qui est très répandu ailleurs, parce que je t'avoue que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup vu ça avant.
Non, moi non plus. Non, mais idem, je le fais pas parce que c'est pas répandu. Hein. Vraiment, c'est le truc que j'en avais envie, je l'ai fait, quoi. C'est tout. Et le curb art, comme tu dis, on pense très très bien. Parce que l'anecdote veut que. En fait, donc, la première anecdote, c'est qu'en fait, il y a un mec qui a vu ce que je faisais, et qui s'appelle Gecko. Et un mec adorable, et qui un jour, on est à la terrasse d'un café à Rouen, et puis je suis à une table à côté, et puis il me dit « Hey, c'est toi Inkoy ?» Je dis « Bah ouais, c'est moi. »« Ah, moi je suis Gecko, on suit sur les réseaux, machin. » Et puis on se met à discuter et il me dit parce qu'en fait c'est important pour la communication d'avoir son hashtag. Donc moi je mettais floor art, street art, enfin des trucs assez classiques. Et il me dit toi tu pourrais mettre Kerbart.
Ah ok.
Et donc je dis ah canon, c'est super, parce qu'en fait effectivement Kerbart tu l'as pas en hashtag, donc c'est juste la classe un genre de hashtag unique qui est juste pour toi quoi. L'autre anecdote rigolote, parce que tu le prononces très bien, c'est que je me retrouve un jour en Bretagne à faire un projet et puis j'ai des amis de mes parents qui sont là et il y a une dame qui est prof d'anglais et donc je lui montre mon petit book et puis elle me dit donc je lui explique, je lui dis voilà tu vois c'est Kerbart parce que machin, et puis il me dit Kerbart, tu sais, l'air comme ça genre interrogatif, je dis ouais Kerbart, et là elle fait ah Kerbart. Donc j'étais complètement ridicule parce que évidemment que quand t'es en français tu dis street art, tu fais pas street art. Voilà, bon, donc le Kerbart il m'a bien marqué. Ouais.
J'ai cru que t'allais me dire qu'en Bretagne ils avaient cru qu'il y avait un lien avec
Care. Mais par contre, ça c'est vrai ce que tu dis, on me l'a déjà fait. Mais alors Care comme chez en breton, je suis non, pas du tout, non.
Tu fais sortir les carreaux de ciment des halls, les motifs sont uniques à chaque fois
À peu près, ouais. Ouais, enfin ça m'est jamais arrivé d'en poser deux fois. Ça va venir là, je vais en faire un où j'ai déjà posé le motif, mais ça tombe bien parce que la première fois a déjà disparu parce qu'elle est vieille. Mais alors ça, c'est le principe de départ, ce dont tu parles là. Le principe de départ, c'est effectivement de choper un endroit où il y a un carreau de ciment, donc pas un endroit commercial, où il y a un carreau de ciment, et de le faire découvrir aux passants. Donc de le sortir du hall. Et ça prend deux formes, en dehors de la forme graphique de l'objet du carreau de ciment. Ça prend deux formes, c'est soit le trottoir il est uniforme, et donc je reprends exactement l'alignement des carreaux de ciment, et je le fais traverser le trottoir, donc c'est comme un tapis qui se déroule, comme si le carreau de ciment était passé sous le seuil, et pouf, il déroule, et il bute souvent sous la barre de granit qui délimite le trottoir de la route, quoi, de la voie. Et l'autre forme, c'est quand par là devant, il y a une reprise de bitume, comme ils ont retouché les canalisations d'eau, et puis ils ont creusé, ils ont rebouché, et il y a un bitume différent qui se pose, ben, j'essaie de me tenir sur cette faille-là, parce que ça lui donne une forme que je n'ai pas décidée, mais qui se dessine très très bien sur le sol. Et je parle là, dans ce cas-là, de faire des jolis pansements sur des cicatrices de bitume. Donc les deux formes existent. Et après, par extension, ce truc-là, il a pris d'autres sujets graphiques, donc pas que de la reposition de carreaux de ciment, et bien d'autres formes, parce que après, t'as des grandes surfaces à couvrir ou autre. Quoi.
Je prends un exemple concret. À Elbeuf, par exemple, tu t'es appuyé sur le passé de la ville, tout ce qui était tissu, etc. Ouais. Ça nécessite combien de temps de recherche, du coup, pour faire un motif spécial comme ça?
Alors c'est pas sur le motif que c'est il y a de la recherche, c'est sur l'analyse de pourquoi on fait des motifs de tissu. Donc ça je pourrais revenir dessus. Et le 2, c'est aller trouver les motifs de tissu parce que là en fait ils existent, je les ai pas inventés.
OK.
Et l'idée c'est si tu prends le passé, tu vas utiliser un truc qui existe déjà. Et après tu as le temps d'installation. Le temps d'analyse, parce qu'on je sais plus à qui j'en parlais dernièrement, mais qui soulignait qu'un artiste ou un artiste. En tout cas, il n'a pas que son temps de prestation matérielle. On se dit, le mec, il vient, puis il fait sa peinture, et puis il y a passé deux jours, et puis voilà, et donc, entre guillemets, on lui doit deux jours. Mais non, en fait, parce que tu as eu tout le temps d'analyse, je ne te parle même pas du temps, depuis combien de temps tu bosses et combien de temps tu as mis à échafauder cette idée-là. Quoi. Mais donc, par exemple, Elbeuf, c'est quelqu'un de la mairie qui m'a contacté parce que je travaille sur le patrimoine et les carreaux de ciment, précisément, parce qu'il n'y a pas que les carreaux de ciment. Et qui m'exprime tout le plaisir qu'il a à voir mon boulot et qu'il aimerait bien qu'on installe quelque chose de similaire à Elbeuf. Et on se fait un rendez-vous parce que je fais aucun boulot sans rencontrer les gens avec qui je veux bosser. Je veux m'assurer qu'on s'entende bien aussi humainement. Parce que c'est important. On va passer un temps ensemble. Moi, j'ai envie de raconter une histoire. Je veux que ce soit cool. Je veux que ce soit très sympa. Donc, on se rencontre. Il est très sympa. Et il me dit voilà, donc vos carreaux de ciment, c'est trop beau, je connais bien la ville d'Elbeuf, j'en ai décoté dans certains immeubles, donc plutôt autour de la mairie, et on voudrait que vous interveniez rue des Martyrs, c'est une rue, voilà, une rue très commerçante, on voudrait dynamiser un petit peu cette rue-là. Et donc, on va rue des Martyrs, et je lui dis mais on est super loin des endroits où vous auriez vu des carreaux de ciment, et je vois pas le lien que les gens vont faire entre les carreaux qui sont près de la mairie et puis eux leur rue qui est pas près de la mairie du tout quoi. Et en fait ça sonne faux. Il me dit ah, d'accord. Alors, je dis par contre on est là en ville, est-ce qu'on continue la visite puis on se balade puis vous me racontez la ville. Il me dit ah ouais, donc là on aimerait que vous interveniez là et cette maison là on voudrait en parler parce que c'est l'ancienne maison d'un grand drapier d'Elbeuf. Je suis OK, alors je réagis pas sur le moment. Et puis on prend une autre rue et puis on voit des énormes bâtiments en briques. Et il me dit voilà, bon, ça c'est une architecture typiquement elbeuvienne. C'est, ce sont des anciennes manufactures et usines qui ont été transformées en logements sociaux. Et je dis c'est super beau. Et je dis mais vous dites, il y avait quoi dedans? Bah des manufactures ou des usines de textiles. Je dis mais votre sujet historique c'est le textile, c'est pas le carrossiment vous. Il me dit ah bah effectivement. Voilà, bon bah tout ce temps-là, je l'adore parce qu'on a rencontré quelqu'un, on a refait un petit bout d'histoire. Et là en fait l'idée elle vient d'elle-même. Je dis mais en textile, alors la frayeur qu'à ce moment-là, c'était qu'il n'y ait que du drap. Donc là, à part des petits bouts de dentelle, éventuellement sur le, ça ne marchait pas. Mais il me dit, non, effectivement, il y a des motifs. Donc le sujet, on le trouve. Et moi, c'est hyper important parce que je veux que mon boulot final, il soit ancré dans un contexte. Quoi. C'est, je ne fais pas de la déco. Ça finira par un, ça ressemblera à de la déco, mais sur le fond, il y a une histoire. Quoi. Donc, de là, je ne te fais pas tous les rendez-vous, mais tu l'as dit que je finis à la Fabrique des Savoirs, qui est le musée d'Elbeuf, magnifique, où tu retrouves des énormes métiers à tisser, ils expliquent toutes les démarches. Et on se fait ouvrir les catalogues, les vieux catalogues du 19e siècle et début 20e, avec des motifs. Donc, ils travaillaient sur du drap de laine, principalement. Et donc, on a les petits gants blancs, les vieux trucs comme ça, on les tourne les pages, et puis on a pris plein de photos de motifs. Et dedans, j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient être intéressants en termes de faisabilité au pochoir. Et puis, en termes de, je reconnais que c'est un motif textile, il en faut parce qu'il faut qu'on comprenne le truc. Et puis d'autres qui étaient plus modernes pour l'époque, quoi. Et donc, on a choisi 7 différents et après, on a fait tourner les couleurs, on les a installés. Et donc, il y a tout ce temps-là de préparation qui est très, très riche. Qui est assez précis. Donc, j'ai une découpeuse à pochoir, donc elle a un format qui est limité à un moment ou à un autre. Donc je découpe du papier 250 grammes dans des formats raisin, format typiquement d'art plastique. Et donc je pose ça sur un tapis de découpe. Ensuite j'ai la machine qui est là.
La machine, elle sert à quoi ?
À découper.
Ah, à découper.
En fait, à l'oral, ça se raconte comme... C'est comme une imprimante, en fait. Mais c'est une lame qui pivote sur elle-même et qui va être guidée par les fichiers que je lui envoie, qui sont des fichiers vectorisés.
T'as ton ordinateur, c'est pas de la découpe au ciseau, quoi. Enfin, au couteau, je dirais.
Ouais, non. Je l'ai fait au cutter au début et au scalpel. Ouais. Tu sais, j'ai encore, tu vois, des jeux de scalpel qui sont là. Mais je me suis blessé suffisamment de fois pour me dire que si je voulais continuer à bosser, il fallait que j'emploie une autre technique, quoi. Et puis en plus, vu la demande, en fait, j'ai un nombre qui était croissant. Et donc j'ai acheté une machine. Une machine qui est calibrée. En fait, j'ai choisi une taille de machine qui me permet de sortir des pochoirs qui font au moins 30 cm. Donc en fait, elle découpe 35 de large. Donc je sais que j'ai des bords en plus bombés, puisqu'un carreau de ciment fait 30 cm de large. Parce que le modèle en dessous faisait 28 et donc j'étais coincé, quoi. Et là, ça va se passer là-bas, tu vois, ça va découper. Et c'est tout bon normalement.
Je reviens à l'origine du projet. À Rouen, quand tu le fais au début, c'est illégal.
Au tout début, oui.
T'as pas le droit, en théorie, de prendre sur un trottoir.
Non, tout à fait.
Et donc, à partir de quel moment, à partir de combien, ils découvrent et ils te disent... Parce qu'après, c'est open bar, en fait, si j'ai bien compris.
Ouais, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Alors, c'est pas aussi simple que ça, parce que, voilà, c'est...
Tu peux pas peindre n'importe quel trottoir non plus, je suppose.
Si, je peux peindre partout dans Rouen.
D'accord.
Ouais, j'ai l'autorisation sur tout. Non, c'est pas open bar dans le sens où... comment dire ? Ils vont identifier une qualité de travail qui font qu'ils sont pas effrayés par un résultat X ou Y. Il y a des critères. Je vois quelqu'un qui prend mon rat en photo. Coucou le rat en photo, bien le rat en photo. Et donc voilà, donc il y a une qualité de boulot qui est un peu garantie pour eux. Ouais. Je parle de leur patrimoine, donc c'est important pour la ville de Rouen. Et puis c'est éphémère. Je vous garantis que ce sera éphémère. Donc voilà, en fait, ils connaissent ce truc-là et donc dans ce sens-là, ils m'y autorisent. Mais effectivement, les premières fois, c'était illégal. Donc la petite histoire qui est très très exacte, c'est que donc j'en ai fait un en bas de chez moi, donc en deux nuits, Parce que je sais pas, j'étais pas prêt ou j'étais pas organisé, donc voilà, j'ai mis 2 nuits à le faire. Et puis, une fois que c'était fait, le Covid commençait en fait, on commençait à être confiné juste après. Donc j'ai fait des photos et puis à l'époque, je le postais sur mon compte en disant, oh regardez ce que j'ai découvert, le carreleur de trottoir. Il y a un mec qui est venu. Enfin, ouais. Puis j'en fais, sans faire des courses, je chope un deuxième. Tu vois quelqu'un qui rentre dans un autre. Est-ce qu'il y en a un autre là? Alors, il y en a qui sont faciles à repérer, d'autres tu fous le pied dans la porte, tu prends la photo, tu rentres, tu travailles ton truc, puis je ressors. Et là, je m'organisais, je me disais, tu vois, je déplaçais des poubelles à droite, à gauche, il y avait une voiture qui était garée, des fois elle se barrait en plein milieu de la nuit, merde, je suis à découvert. Bon, tu l'as dit qu'une seule fois j'ai vu les keufs passer de loin, tu vois, mais je m'organisais bien, quoi. Il y a eu aussi des fois où il y a quelqu'un dans l'immeuble qui rentre, qui me dit « Ah, c'est toi qui fais ça, c'est trop cool, je peux laisser la porte ouverte. » Je rentre tout le matos. Mmh. Tu vois, puis si les flics débarquent, t'as juste un pochoir et tu le laisses sur le trottoir, tu glisses sur la baignoire, tu rentres dans le hall, t'attends qu'il passe et puis c'est réglé. Quoi. Mmh. Parce qu'en fait, je sors une quantité astronomique de matériel. Mmh. T'as, je sais pas, si t'as 6 couches de pochoir pour faire un motif, bah t'as 6 pochoirs sur le trottoir, t'as autant de couleurs de bombes, t'as tes torchons, t'as tout un bordel. Si tu te bats en courant, tu laisses tout ton matos, quoi. Sinon, tu te fais juste gauler.
Ouais, et puis en bas de chez toi, pour le tout premier, c'était pas totalement le crime parfait non plus. Hein.
Non, non, mais sauf que c'était hyper pratique, parce que moi, ma porte était ouverte, voilà, et je pouvais me cacher, quoi. Donc j'en ai fait, effectivement, je crois, 5 comme ça. Ouais. Et tous ces cas de figure-là ont existé, c'est qu'un jour, il y a un mec qui m'a invité à l'apéro, il m'a laissé la porte ouverte, etc. Donc je pouvais me camoufler. Et puis, entre-temps, j'avais croisé... donc, on n'était pas tout à fait Covid encore, où ça a réouvert, je ne sais plus, mais j'ai croisé une personne de la mairie de Rouen qui était responsable de l'urbanisme. Et voilà, la situation veut qu'à ce moment-là, je me dis, elle est sympathique, je vais lui en parler. Elle me dit, faut absolument que tu ailles voir les gens de la mairie. Donc, je prends rendez-vous avec quelques personnes de la mairie. Et effectivement, on est en réunion et je venais... Enfin, officiellement me présenter parce que je venais de m'installer sur Rouen il n'y a pas si longtemps que ça, que je voulais poser des choses, me présenter. Et donc, je leur dis, bah voilà, c'est moi qui fais ça. Et donc, il y en a un qui me dit, ah, mais je m'en doutais. Je dis, voilà, je fais ça, ça met le patrimoine à l'honneur, c'est éphémère, enfin, tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Donc, je voudrais juste que vous m'autorisiez à le faire et je compte en faire aller 5 ou 10, quoi. Et donc, dans le reportage France 3 qui est passé et qui a fait qu'en fait tout ça a pris vachement d'ampleur, c'est cité d'ailleurs, il a la bénédiction de la mairie pour encore 10 fresques. Et en fait, j'ai reçu un papier une semaine plus tard, alors qu'on m'avait garanti un délai d'un mois pour l'avoir. Et le papier, il stipulait libre sur un an, sur tout.
Ah oui, donc c'est acté sur papier.
Ah oui, parce que depuis, je me suis fait contrôler plein de fois et donc il faut avoir le papier sur moi. Et voilà, à la fin de l'année, j'ai redemandé 6 mois. Non, j'ai redemandé, ils m'ont filé 6 mois. Et puis là, j'ai redemandé au bout de 6 mois, ils m'ont refilé un an. Donc là, je suis tranquille jusqu'en septembre.
Donc à Rouen, t'as le droit d'y aller comme tu veux. Il y a d'autres villes qui viennent te chercher, si je comprends bien. Du coup, les Elbeuf, j'ai vu Boulogne-sur-Mer, j'ai vu Pont-l'Évêque. Enfin, tu circules beaucoup. Là, dans ces cas-là, c'est quoi? C'est des commandes? T'es payé pour ces choses-là ou tu vas?
Oui, en fait, tous les ce que j'appelle les Carhartt de pas de porte d'immeuble. C'est ma démarche perso à moi. C'est aussi de l'entraînement. C'est j'ai envie de faire plaisir. Ça me fait plaisir de sortir la nuit et le faire, parce que je continue à sortir la nuit. Ça fait vraiment plaisir aux gens. En fait, c'est un super échange. Donc ça, je continue. Et après, tout le reste, ce sont des commandes. Et donc, forcément, une ville, quand tu te passes commande, elle t'autorise à prendre.
Combien ça coûte pour une ville de te faire faire un trottoir?
Un trottoir, c'est quelle surface, tu vois, oui, c'est quelle complexité, dépend, j'en sais rien, j'ai pas de prix.
Donc ça dépend aussi du motif, ça dépend de plein de choses
ou... Ça dépend de plein de trucs, parce qu'en fait, souvent les villes, elles me demandent pas de venir faire un carreau de ciment qu'ils ont trouvé, c'est pas ça le sujet. Tu vois, Elbeuf, c'était ça la demande, sauf qu'en fait, non. Pont-l'Évêque, par exemple, tu vois, ils m'ont demandé de venir parce qu'ils avaient des carreaux de ciment dans leur église, l'église Saint-Michel. Je suis venu, on a fait la balade. Il y avait 7 références différentes de carreaux de ciment dans la même église. Donc c'est super riche, quoi. Tout le sol est un carreau de ciment. Et donc, je dis, écoutez, c'est chouette parce que vous avez plein de trucs, on peut en sélectionner un certain nombre, et on travaille sur les fameuses cicatrices, et vous voulez que j'intervienne dans tel quartier. Mais ils avaient plusieurs demandes. Et puis, voilà, les choses s'emballent parce qu'on passe devant un croisement qui est tout pourri, et puis je leur dis, mais... En fait, l'idée, elle me vient comme ça. Je me dis, mais là, il faudrait faire des carreaux de ciment sur un peu de la route, quoi. Et donc, je leur dis, mais là, le plateau, là, vous comptez le refaire dans combien de temps? Je sais pas, d'ici les 5 années, quoi. Je dis, on fait des carreaux de ciment géants et qui vont durer 10 ans au milieu de la route. Ah, banco! Puis un autre quartier me demande autre chose, et alors je dis, non, pas le carreau de ciment, là, on va faire des, vous avez super colombages, on va faire des tombées de façade comme ça, bam, bam, bam. Bon, voilà, tu rebondis parce que je suis sensible au patrimoine, parce que c'était, en fait, le fond de la demande, c'était leur patrimoine. Donc, eux, forcément, ils peuvent pas, c'est moi qui ai les idées, c'est pas eux. Eux, ils ont des envies. Et donc, ils vont dessiner leurs envies en fonction de ce qu'ils savent de moi. Et après, moi, je peux extrapoler, quoi.
J'ai l'impression d'écouter un son des Daft Punk, un peu.
Quand tu l'écoutes tous les jours,
Ah, passage secret dans le...
Voilà.
Ah, tu passes par la fenêtre.
Ouais, j'ai pas envie de faire le tour.
Ok. Donc, escabeau fenêtre.
Ouais. Périlleux avec le micro. Hop. Attends, tu mets quelle jambe d'abord?
Celle que tu veux, mais faut en lancer une, ouais.
Ouais. Hop. Voilà.
Yes.
Hop, voilà.
Là, j'ai la deuxième partie.
Ah. Là, on sort les bombes.
Ouais, c'est ça.
Oh, oui, dis donc, il y en a un paquet. Donc, attends, là il y a 4, 8, il y en a combien? Il y en a des centaines, non?
Ouais, ça c'est tous les bombes entamées, donc j'essaie de les finir, je fais des tests avec. Ça c'est tous les bombes neuves, parce que tu pars forcément avec des bombes neuves. Et puis t'en as encore tout plein en dessous.
Quand tu dis c'est la marque avec laquelle je bosse, c'est que t'es sponsorisé ou...
Non, pas du tout, c'est
ah
juste
bon,
que c'est un
ton
choix.
Préféré, ouais.
Ouais, parce qu'elle est, bien couvrante, elle est moyenne pression, contrairement à d'autres qui sont basse pression ou celles qui sont haute pression. Donc c'est pas du tout la même
équation. C'est quoi la différence, haute pression, basse
pression? Là t'appuies, tu te prends un jet.
D'accord, c'est la pression à laquelle sort la peinture.
Ouais, tu fais du 15 nœuds quoi. Et okay. Voilà, exactement. Ouais. Donc, alors t'en as qui sont. En fait, selon l'utilisation que t'en as, et moi je les connais pas toutes, mais quand tu peins au mur, il y a des marques comme la 9-4 ou la 94. Tu vois, elle envoie assez doucement et donc tu peux avoir un geste qui est plus lent et plus précis. Celle-là, elle est moyenne pression, qu'elle est bien sous le pochoir parce qu'elle projette vite et donc, ouais, tu vois, elle est, comment dire, son jet est coupé par le pochoir. Et donc il faut avancer plus vite, mais ton trait est super net. Okay. Et ça c'est la haute pression parce que c'est des bombes de peinture pour sol qui sont spécifiques, donc les pochoirs détestent.
D'accord.
En fait ils sont très très vite surchargés, donc il faut les jeter. Mais par contre c'est une peinture qui tient 10 ans quoi.
Soyons très techniques.
Yes.
T'as identifié ton motif, le carreau de ciment, etc. Vu de l'extérieur, on se dit bah il met un pochoir, il peint, c'est fini. Mais c'est bien plus compliqué que ça.
Mais non, c'est ça.
Oui, mais combien... Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai fait mes petites recherches, c'est pas un pochoir.
Ah oui, non, ce que tu dis est vrai sur un pochoir, effectivement.
Voilà. C'est combien de pochoirs, comment on fabrique ces fresques-là? T'as un carreau de ciment, en fait, c'est plusieurs pochoirs.
C'est plusieurs pochoirs. Alors, même à l'oreille, il y a des trucs que je pourrais pas expliquer parce que personne ne va comprendre. Enfin, s'il faudrait avoir l'esprit très très technique, mais un carreau de ciment, donc, un vrai carreau de ciment. Ça se réalise, en fait, c'est un carré qui a une certaine hauteur, je sais pas, 1,5 cm ou 2 cm, dans lequel ils mettent un pochoir, mais un pochoir en 3D, donc un pochoir qui a une hauteur comme des moules à gâteau, qu'ils emboîtent les uns dans les autres, et dans chaque petite portion, ils vont couler de façon symétrique les couleurs. Alors, ils enlèvent tout ça et ça fait le carreau de ciment. Donc le principe est un petit peu le même en peinture, c'est que je dessine et découpe, ce que je dessine avant de les découper, des pochoirs pour chaque couleur qu'il y a sur le carreau de ciment, et ensuite je les superpose. Donc, effectivement, tu mets ta première couche, deuxième couche. Donc, aujourd'hui, le plus que j'ai fait, c'est 9. Et je crois que j'en ai un en projet où il y a 11 couches. Donc, sur 11 couches, ça te fait toujours que un motif. Voilà. Parce que, en plus, des fois, tu as un bleu dans ton carreau de ciment. Mais, techniquement, ton pochoir, tu pourras pas passer le bleu la même fois. Parce que, c'est là où à l'aura, ça va pas fonctionner. Mais en tout cas, je vais poser un bleu qui va être plutôt sur le fond. Et après, il y a le petit point qui est au centre du carreau de ciment. Bah, lui, je suis obligé de le poser en dernier. Donc, je repasse mon pochoir bleu juste pour ce trou-là. Ce qui fait que, des fois, on monte à une dizaine de pochoirs pour avoir un motif. Et un motif, c'est, un carreau de ciment, de base, c'est 15-15 et on le multiplie 4 fois. Donc, ça fait un motif de 30-30. Et donc, ces motifs-là, des fois, j'en ai 12 à poser ou 20. Et donc, c'est autant de fois les 9 pochoirs, quoi.
Donc, sur un pas de porte où tu fais l'alignement, ça fait combien de temps à genoux en train de... Parce que t'es à genoux, j'ai vu que t'as même des genouillères. Hein.
Oui. Ouais, je suis accroupi. Ouais, il faut changer de position. Ouais. Le dernier que j'ai posé, qui est à rue Martinville, à Rouen, on était 2. Et on a passé 2h15.
Ah oui, donc c'est gérable en une nuit. Tu disais que tu bosses la nuit.
Ah oui. Ah ouais.
Et au niveau de la peinture,
tu... Mais quand même. Enfin, à deux, ça veut dire que tout seul, j'aurais été encore plus efficace, ça c'est sûr.
Okay.
Mais j'aurais passé 3h30, ouais.
Et au niveau de la peinture, tu dis c'est éphémère, donc c'est des peintures, c'est des peintures particulières, c'est de l'acrylique. Une fois que c'est là, c'est une œuvre vivante pour toi, du coup, vu que les gens interagissent en fait avec, marchent dessus.
Une œuvre vivante, c'est une bonne question. Une œuvre vivante. Alors moi, j'aime beaucoup quand je prends des photos, essayer de me débrouiller pour voir quelqu'un qui marche dessus, parce que c'est... Alors, elle a... je suis pas forcément un mec humble. Voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est mon statut d'indépendant et d'artiste qui fait que forcément j'ai un ego. mais je trouve que sa forme au sol, elle recèle une certaine humilité. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'accrocher quelque chose au mur et qu'on se la contemple comme ça. Mmh. Les gens les contemplent parce qu'ils trouvent ça très très beau et c'est super. Mais elles sont vouées à disparaître et elles ne sont pas là pour empêcher le passage. Voilà. Mmh. Elles sont là pour surprendre sur ta route parce que d'habitude il n'y a rien et aujourd'hui il y a quelque chose. Au même titre que d'ailleurs des fois tu mettrais une poubelle sur ton trottoir, t'es obligé de descendre du trottoir et ça d'un coup ça te génère un nouveau point de vue. Ah, oh, j'avais pas vu ce truc-là parce que j'ai pris un peu de recul. Bon, j'espère que c'est plus beau qu'une poubelle, mais l'idée c'est de surprendre en fait sur la route.
Tu te postes un peu pour regarder les réactions des gens ?
Ah non, une fois que c'est fait, c'est fait.
Tu t'en vas et ouais. Ça vit sa vie.
Ah bah ouais ouais. Alors ça peut m'arriver si je suis dans le quartier et que je vois des gens qui s'arrêtent, mmh. je jette un coup d'œil, mais je vais pas les voir. Tu vois, enfin.
Un si gros ego que ça, du coup. Parce que là, je le dis, on enregistre dans ton atelier, il y a une baie vitrée, il y a quand même quelqu'un qui s'est arrêté devant pour te faire signe, qui trouvait ça génial et qui a regardé un petit peu ce qu'il y avait devant. Donc l'accueil, il est toujours positif. T'as jamais eu de gens qui t'ont dit, oh mon Dieu, vous défigurez le trottoir, allez-vous-en.
Jamais, jamais. Jamais, et de tout âge. Hein. Ça, c'est un truc qui est extrêmement agréable. C'est que tu touches le petit minot qui a que quelques années et il se trouve trop fun parce que t'es là à quatre pattes en train de peindre et puis t'as l'image graffeur qui est très cool. Mmh. Et puis sur un des projets, je me souviens de la propriétaire en fait qui, parce que je copiais un mur à côté de Saint-Maclou et la dame était franchement pas très très aimable au début parce qu'elle dit qui est ce mec qui peint par terre. Mmh. Et en fait elle a fait 2-3 allers-retours en prétextant d'aller faire des courses et à la fin elle m'a félicité quoi. Et en fait, le truc qui est intéressant pour ces gens-là, c'est qu'il y a le côté très cool du graffeur, il y a le résultat graphique qui est pas dégueulasse en fait, mmh. tu vois. Et puis ça fait référence à un produit existant, donc mmh. voilà, c'est pas dégueulasse. Et t'as la dimension culturelle, le patrimoine. Les gens se disent oh, ah merde, parce qu'il y a quelque chose derrière quoi. Et donc, même si graphiquement on se disait ah j'aime pas ce carreau de ciment là, je l'aurais pas mis chez moi, tu dois convenir que là sur le trottoir, pas du tout à sa place. Oh, en fait, c'est tellement plus beau. Mmh. Eh ben, en fait, tu dis oui, ok. Bah, d'accord, très bien, voilà.
Mine de rien, tu fais comment pour tout ce qui est odeur, etc. Parce que là, on le sent, t'as un peu bombé, ça sent très fort. Tu as toujours un masque, t'as toujours quelque chose.
J'ai un masque, ouais. Ah, c'est pas celui-là, c'est celui-là.
Oui, d'accord, ouais. Ouais, parce que sinon, c'est, je suppose qu'il y a des vapeurs un peu toxiques ou des choses comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est pas bon pour les poumons. Et puis, en fait, tu te rends compte quand tu bombes qu'il y a des peintures qui sont plus volatiles que d'autres. Le blanc, par exemple, il est hyper léger. En fait, tu bombes en blanc et tu vois le nuage qui monte, quoi. Okay. Alors, peut-être par contraste de couleur aussi, mais beaucoup plus. Et donc, t'imagines que si tu respires ces trucs-là, ça en répond, enfin, comme un fumeur, quoi. Mmh. Mmh. Et après, t'as les odeurs en plus sont un peu enivrantes à force.
Ouais, c'est pour ça que je te demande ça, parce qu'on le sent déjà un petit peu.
Ouais, alors, chaque bombe a son odeur. Donc celle-là, elle sent un petit peu fort. Il y a la 9-4, ça sent la vanille. Donc c'est agréable, mais pas pour autant que tu n'inspires pas de la merde. Mmh. Et puis voilà. Et après, t'as les émanations, hein, juste qui te font tourner la tête. Moi, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai fait un sol pour une salle de mixage. Et on était comme fou. Mon pote, son papa bossait à la DDE. Donc il avait récupéré des pots de peinture de la DDE. On avait mis des collants dedans et on avait peint une cave. On est sorti mais défoncé. Et on a dû sortir pendant le chantier. Et donc le mec s'appelait André qui dirigeait la salle. Il était un mec qui fumait. On était tous les trois sur le trottoir. Lui avait fumé et nous c'est juste la peinture des DE quoi. Donc ouais non, il faut se protéger. Ah ouais.
Tu parles de patrimoine, on a parlé d'ego juste avant. Les deux semelles, est-ce que t'as pas aussi une fierté quand même de se dire, je participe au patrimoine de la ville ou en tout cas à égayer l'ambiance quoi de la ville.
Ah bah si ouais. Si, si. non, mais moi, j'adore mon boulot, hein. J'ai pas de souci avec ça. J'adore le faire. J'adore que les gens adorent. Enfin, c'est très bien. Mais en fait, ça, c'est un échange, tu vois.
C'est un projet, ou en tout cas, c'est un type de travaux que tu te vois maintenant décliner à l'infini, ou tu fixes une limite, ou il y a un moment où tu te dis, peut-être j'en aurai marre.
Puis c'est beaucoup trop tôt pour en parler, en tout cas. Ce que je sais, c'est que. En fait, moi, depuis, ça fait une vingtaine d'années que je bosse, j'ai toujours été indépendant. Je suis sorti de l'école, j'ai trouvé du boulot, j'ai trouvé un boulot une fois, j'ai démissionné au bout de 2 mois et puis je me suis mis indépendant. Donc, j'ai toujours rebondi sur des choses. En fait, ça dépend de ta trouvaille, ça dépend de l'opportunité. J'ai fait des choses commerciales parce qu'il fallait bouffer au début. Et puis, j'en ai fait moins en moins. Et puis, j'ai développé des fresques didactiques. Et puis, je suis aussi architecte d'intérieur, donc j'ai fait des scénographies pour les musées, pour des espaces de coworking. Et puis, tu vois, il y a des époques dans la vie où je vais faire plus de scénos. Et puis, des époques où je vais faire plus de fresques. Là, je viens de rentrer dans un truc où c'est extrêmement riche parce qu'il n'y a pas que les carreaux de ciment, parce qu'il y a les vitraux, parce qu'il y a les colombages, parce qu'il y a la maçonnerie, et je vais en découvrir d'autres. Il y a la céramique, j'en ai fait dans le nord de la France. Là, on parle d'un jardin botanique aux alentours de Nîmes, donc tu as le truc de végétation à travailler. Enfin, bon, donc, il y a énormément de choses. Je ne sais pas où ça m'amènera. J'espère juste que j'arriverai à renouveler le truc, pour l'instant, ce que j'avais à faire, parce que je refuse de faire des trucs répétitifs. Ouais. Donc je pense qu'il y a beaucoup de matière, ouais.
Tu parlais
après
d'être
ça peut s'arrêter, c'est la question.
Tu parlais d'être indépendant, t'es un artiste officiellement, enfin c'est ce que tu es. Comment on concilie le côté les contraintes d'être indépendant, de devoir manger et la liberté de point de vue et de faire d'un artiste?
Je sais pas trop quoi te dire en fait. Moi, j'y vois pas beaucoup de contraintes, en fait. Donc, évidemment que si on rentre dans le détail et que je repense à certaines périodes où c'était compliqué, mais j'en ai pas eu tant que ça, en fait.
Tant mieux.
Ah oui, non, tant mieux. Mais il y a eu des périodes où, effectivement, je voyais le compte en qui baissait, je me disais, waouh, là, il est temps de rentrer du boulot, là. Mais ça, c'était il y a très longtemps, maintenant. Et puis, en fait, j'aime tellement cette manière de vivre là que je m'en inquiète pas trop. Et peut-être que le fait, alors je m'inquiète pas trop. Si Walka était là et on bosse ensemble, elle sourirait parce que évidemment que j'ai des périodes d'angoisse. Mais c'est plutôt sur des projets où j'ai une période d'angoisse et je lui dis, là ça va merder ou c'est trop compliqué ou je m'étais. En fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Comment je vais m'en sortir? Donc oui, et puis tes revenus peuvent varier sur ça. Par exemple, si t'as misé 3 jours de boulot et que tu trouves 6 jours de boulot, pendant 3 jours tu gagnes rien quoi. Mais moi, je suis vraiment un gros, gros, gros bosseur. J'ai des amplitudes de journée qui sont très larges parce que je dors peu, c'est comme ça. Et parce que je suis aussi très, très efficace. Donc, ça envoie. Et c'est aussi pour cette raison-là, je pense que je bosse bien en termes de quantité de demandes, de commandes. Parce que comme je bosse beaucoup, je finis par être visible. Puis bon, il y a plein d'autres qualités que les gens véhiculent, et moi en précisant, parce que c'est moi le sujet, qui font que j'ai des commandes. Quoi.
Si je comprends bien, tu parlais de faire du commercial au début. Plus tu t'établis, plus tu es reconnu, et moins tu as à en faire, et plus tu as de liberté.
Ah bah oui. Évidemment, il faut bouffer. Quoi. Donc, quand je fais du commercial, c'est que oui, je faisais du graphisme ou de l'infographisme, mais au tout début, pour des grosses boîtes. Et puis... Puis voilà, il y a un moment où tu fais un truc créatif, on te l'achète. Non, mais oui, c'est exactement ça, en fait. À partir du moment où soit tu as installé une forme artistique, bon, par exemple, comme le carreau de ciment qui est ma base de travail, et que les gens y sont sensibles, ils vont te passer des commandes. Et puis, je n'accepte pas qu'on me dise, je voudrais que vous me fassiez ça. Non. En fait, d'ailleurs, parce que c'est pas ma force. Ma force, c'est pas de faire. Dans ce cas, je vais apprendre à quelqu'un à faire des pochoirs. Vous allez dessiner des motifs, puis il va vous les poser. Et ce sera moins cher parce qu'il n'y aura pas d'analyse derrière. Moi, la force que je vends avec tout ça, c'est qu'en fait, il y a une réflexion à Elbeuf. Les gens, ils s'arrêtent dans la rue. Et puis, on a même rajouté des textes. Et puis, ils comprennent que c'est leur passé de leur ville. Et tout ça, ça remonte. Il y a des gens qui s'arrêtent en disant, super, parce que moi, j'ai connu la dernière usine. J'ai vu ça à Dèvres aussi en céramique. Les mecs, ils s'arrêtent. Ils disent, moi, j'ai éteint le dernier four. Et voilà, moi, si tu fais juste poser des motifs,
C'est peut-être ça aussi de rester un artiste, c'est de pas accepter une certaine standardisation.
Ouais, c'est ça, jusqu'au moment où t'as faim.
Jusqu'au moment où t'as faim, voilà. C'est sûr que...
Et à partir du moment où t'as pas faim, et tu effectivement, tu t'es beaucoup moins contraint par ça. Parce que de toute façon, on attend ça de toi.
Oui.
On c'est attend un produit très particulier.
Oui, c'est le risque, c'est qu'on te demande de faire la même chose tout le temps après quand t'es un artiste.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est pour ça, par exemple, qu'on m'a demandé plusieurs fois, c'est est-ce qu'on peut avoir des tirages ou est-ce que... Mais en fait, je vends pas en galerie, moi, je vends une prestation qui est une prestation unique. Et là, vous avez la fresque, elle est là pour 6 mois, 1 an, ça va dépendre de la tenue, du passage, etc. Mais elle sera unique, elle sera éphémère. Alors, pas tout éphémère, mais... Mais j'ai pas de pièce à vendre. Et pour l'instant, ça m'intéresse pas. Peut-être parce que j'ai pas eu un déclenchement sur, si je faisais une série de ça aurait tel sens. Et tant que j'ai pas trouvé le sens, je m'intéresse pas à le faire, quoi.
Dans l'aspect entrepreneur, commercial, alors je sais pas si c'est exactement commercial, mais t'as un Facebook, un Instagram qui sont très actifs, qui sont bien tenus. Est-ce que c'est toi qui les gères et est-ce que ça fait partie de la démarche ou est-ce que c'est des trucs qui, faut le faire, quoi?
Non, c'est moi qui gère tout et ça fait partie de la démarche, ouais. Ouais. Donc, t'as l'air de dire que c'est bien tenu et j'espère que c'est bien tenu parce qu'en fait, c'est vraiment à l'image de ce que je veux raconter quand je fais un projet. C'est que, typiquement, par exemple, l'Instagram, il est tout chaque projet est sur 3 posts. Parce que j'ai pas mis un motif en disant voilà, regardez, hop, c'est joli. Ce motif-là, il existe pour telle raison. Il a tel point de vue différent. Et donc, j'ai pas assez d'un post pour le présenter. Je sais aussi qu'il faut avoir que 2-3 lignes. Et donc, je vais mettre une info et une autre info. Sur Facebook, ça va être pareil. On n'a pas du tout les mêmes retours. Mais sur LinkedIn, par exemple, où je suis aussi très actif et j'ai beaucoup de retours, je vais fonctionner sur un truc qui est beaucoup plus sobre. Tu vois, c'est un post où je vais condenser les 3 images et je vais mettre toute l'histoire. Parce que on peut se permettre sur ce genre de réseau. Enfin, surtout, il faut pas en mettre trop. On n'a pas que ça à foutre. Mais par contre, il faut quand même renseigner les gens. Donc, je condense, quoi. Mais oui, je raconte sur les réseaux comme là, je te le raconte. C'est un peu long. Effectivement, il y a du détail. Mais c'est important qu'il y ait du détail. Et là, actuellement, j'ai une petite marotte, c'est d'ouvrir toutes mes bombes usagées et de récupérer les billes qu'il y a dedans.
Ah oui, tiens, d'accord, tu peux ouvrir.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de récupérer les billes.
D'accord.
Peut-être que ça me servira.
Ah oui, d'accord, c'est des petites billes comme ça.
Ouais.
Je suis en train de découvrir que t'as
à peu près une taille de billes de verre et t'as 2 tailles de billes métalliques. Là, t'as une petite là. Donc, je ne sais pas à quoi ça me servit. Mais de nouveau, Joseph me dit, ah, qu'est-ce que tu vas faire encore à crever toutes tes bombes parce que je fais ça au couteau, tu vois, et au marteau.
Oui.
Et je lui dis, écoute, tu m'as raconté que le carreau de ciment, tu te demandais pourquoi je voulais absolument faire mon carreau de ciment et aujourd'hui, voilà quoi, voilà le résultat. Donc laisse-moi jouer mes billes.
Peut-être ce sera quelque chose et ça va devenir quelque chose, tu sais pas encore.
On va savoir. On sait jamais.
Je reviens à ton parcours, tu as fait les beaux-arts de l'architecture d'intérieur. Ça apporte des bases qui sont essentielles. Qu'est-ce qu'on apprend en fait pour devenir artiste ?
Ça, je sais pas. Non, moi j'ai fait ce cursus-là parce qu'il est même plus large que ça, mon cursus. Parce qu'en fait, je suis fils de prof d'art plastique et artiste peintre, tous les deux. Ils exposaient. Mon papa exposait au Grand Palais, tout ça. Donc voilà. Donc c'était un truc que je fuyais. Forcément.
Okay.
Parce que tu peux pas être un jeune artiste dans une famille de vieux artistes, quoi. Tu te fais chambrer constamment, c'est vraiment désagréable. Et donc, comme j'ai en plus l'esprit très pratique, ce qui se ressent dans les carreaux de ciment, parce que c'est très organisé, j'ai décidé d'être dans l'art, mais dans un milieu art appliqué, comme on appelle ça. Donc, c'est design, stylisme, graphisme, architecture, choses comme ça. Et donc, j'avais décidé de prendre cette voie-là très très jeune, dès le lycée, en fait. À l'époque, j'ai fait un lycée spécialisé en ça. Et puis, par contre, comme j'ai visiblement une petite veine artistique, j'ai du mal à dire le mot artiste, hein, donc voilà, j'ai une veine artistique.
J'avais pas osé te poser la question, en fait, tout à l'heure, si tu te définissais comme artiste.
Ouais, parce que j'ai tiqué quand tu l'as dit. Tu as dit que t'es reconnu comme artiste.
Ouais.
Bah, très bien que je sois reconnu comme artiste. Voilà.
Alors, je vais la refaire, alors, cette question-là, mais si on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi ?
Je dis non, je suis plasticien, ouais. Alors, des fois, je vais être obligé parce que les gens, ils ont besoin d'un mot qui représente quelque chose, même si je trouve que ça représente pas grand chose d'artiste, mais ils ont une image au moins. Mais, ouais, je suis, alors maintenant, on dit artiste, plasticien, scénographe, tu vois, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens le pensent, en fait, tu vois, s'ils le disent de moi, super. Mais je me fais engueuler, d'ailleurs, parce qu'on bosse à deux et on me dit, mais tu peux pas, il faut que tu l'assumes. Plein de gens, il faut que tu l'assumes, tu l'es. Mais je l'ai, je sais pas à quel moment, c'est pas un diplôme artiste. C'est pour ça que si je reviens à la question des études, c'est que c'est... En fait, c'est juste ta richesse. Et qui fait que si tu arrives à la transformer en un truc créatif et qui s'offre au grand public, bah oui, t'es un artiste, t'es qualifié d'artiste. Mais on peut faire 50 beaux-arts et ne pas être artiste, tu vois.
C'est exactement là où je voulais en venir. En fait, je te posais la question du background, c'était pour demander est-ce qu'on peut devenir artiste ou est-ce qu'on l'est, en fait, tout simplement, quoi qu'il arrive.
Ben, j'imagine que tu deviens artiste quand t'es reconnu tel que, en fait, j'ai l'impression, en tout cas. Moi, je trouve ça délicat de s'inscrire artiste. Enfin, sur mes comptes Instagram, etc., je sais même pas ce qui est écrit, d'ailleurs.
Qu'est-ce qui est écrit ?
Mais, je sais pas. J'ai mis quoi ? Si, putain, c'est écrit artiste.
Ah.
Mais non, mais c'est aussi... Non, en fait, tu as une grille. J'imagine qu'il y a une grille et que c'est ça, ou informaticien, j'ai préféré mettre artiste, quoi. Tu vois ?
C'est plus proche.
Ben, c'est plus proche, ouais. Mais en tout cas, c'est une construction, ce truc-là. Et puis, je fais pas, alors, je suis tout le temps dans les arts appliqués, mais toute l'époque où je fais de la scénographie, je suis pas un artiste. Alors, je vais être un scénographe plus créatif qu'un autre, sûrement, ou plus sensible. Parce que c'est ça le jeu des deux études. J'ai fait les beaux-arts, c'est parce que alors, j'étais pas scolaire du tout. J'ai un problème plutôt, enfin, très longtemps jusqu'à, ouais, enfin, tout le lycée, c'était compliqué. J'ai redoublé, je me suis viré plusieurs fois, tout ça. Mais les beaux-arts, ça a été une révélation pour moi. Donc là, je voulais juste en mettre plein mon panier de la technique, faire des trucs qui n'ont pas de sens, voilà. Et puis, par contre, une fois que j'avais un bagage qui me paraissait suffisant pour pouvoir redémarrer, je suis parti en un premier cursus d'archi, puis un deuxième cursus d'archi. Et ce qui fait que quand je suis en archi, je suis plutôt plasticien, donc un peu créatif et libre. Mmh. Et puis quand je suis dans le milieu artistique, eh ben, je vais me retrouver à faire des trucs très structurés, en fait. C'est marrant. En fait, surtout, toujours cette double sensibilité dedans. Mais puis d'ailleurs, je suis pas rentré aux beaux-arts en me disant je suis un artiste, tu vois. Mmh. Je suis rentré aux beaux-arts en me disant c'est riche, j'en veux. Après, ce que t'en ressors, fais de toi que tu l'es ou tu l'es pas, ou que les gens le pensent, en tout cas.
On termine généralement avec un conseil à nos auditeurs qui seraient inspirés par ton parcours, des jeunes auditeurs par exemple, qui aiment les arts plastiques, qui aiment tout ça. Qu'est-ce que tu leur dirais s'ils te disent justement « je veux devenir artiste » ?«
Je veux devenir artiste », je trouve que déjà c'est compliqué. « Je veux devenir artiste », quoi. En tout cas je pense qu'il y a le chemin que tu ne peux pas, dont tu ne peux pas sortir, c'est de bosser et d'être méga curieux, quoi. Et puis poser des choses, pas juste penser des choses. Moi, c'est ça que j'aime dans l'aspect pratique mais j'ai l'esprit pratique et j'aime poser des choses parce que je les teste, parce que quand tu les poses, tu les proposes et du coup, tu as des retours et voilà, donc faut faire à fond. En fait, de toute façon, la plupart des métiers, surtout quand tu es indépendant, c'est une question de motivation. Si tu en as envie, évidemment que c'est pas une garantie que ça va marcher parce que tu peux passer à côté et puis peut-être que t'as envie d'un truc qui te plaît pas, tu vois. Mais en fait, si t'en poses, tu finis par convaincre, en fait. Donc il faut en vouloir tout le temps. Il faut être. Alors c'est là où l'ego intervient, c'est qu'il faut être persuadé que ce que tu fais est vachement bien. Donc si t'es persuadé, bah tu le refais. Bah si au bout de 50 fois personne n'a réagi, bah tu changes et puis tu te dis c'est pas grave, j'ai forcément appris quelque chose de ça, d'une défaite ou un truc à côté de la plaque, quoi. Mais tu refais autre chose. Si tu abandonnes, c'est pas fait pour ça. De toute façon, enfin, un indépendant, il peut pas abandonner.
J'ai l'impression que la morale, en discutant avec toi, c'est qu'il y a plein de métiers qui ont plein de clichés, et on a couvert certains dans cette émission, mais je crois que les clichés sur les artistes sont presque de loin les plus faux, parce que ils se lèvent pas à midi en ayant une idée lumineuse et en jetant de la peinture sur un mur, visiblement.
Non, je sais pas ce que sont devenus tous les gens de ma promo des Beaux-Arts, mais il y en avait un paquet qui se levait à 11h. Ouais. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, donc je ne vais pas de vérité là-dessus, mais moi, je me levais plutôt à 6-7h du mat. Ouais. Et j'allais bosser, puis bosser jusqu'à très très tard. Ah non, moi, je suis un bourrin de travail, en fait. Je bosse énormément. Ouais. Ouais. Et je ne dors pas. Des projets me réveillent parce que je les ai en tête et que ça tourne. Non, puis il n'y a pas la mode barbouilleur. Tout est hyper calé, hyper précis. Je veux que ce soit soigné. Je veux que toute personne qui voit le boulot en soit satisfaite, qu'il soit client, pas client. Enfin, c'est chaud. Enfin, c'est tout ça est très calé. Ouais.
Eh ben, merci beaucoup.
Et merci à toi.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire si cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est @OccupationPod, Occupation au pluriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.